France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Rien qu'en 2025, nous avons eu de grands effets d'annonce sur la détection d'éventuelles traces de vie sur Mars ou sur une exoplanète. Sur quoi repose la recherche en exobiologie ? Notre univers observable abrite plus de 100 milliards de galaxies. On sait que la majorité des étoiles possèdent des planètes situées dans la zone habitable. Difficile de penser que l'émergence de la vie sur Terre n'ait pas opéré ailleurs, dans le cosmos. Depuis les premières missions lancées en 1975, on assiste à une série d'annonces spectaculaires suivies de douches froides. Comment cette traque du vivant ailleurs s'organise-t-elle ? Peut-on espérer débusquer des biosignatures extraterrestres quand nous ne savons toujours pas comment la vie est apparue ici et que cette définition ne fait pas consensus. Exobiologie, là-bas, si j'y vis. Thérèse Ancrenas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche émérite CNRS au laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique, le LIRA. Athéna Kousténis, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris PSL, directrice de recherche CNRS au LIRA, et vous publiez toutes les deux aux éditions Erol l'énigme de la vie dans le cosmos. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture, et merci à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez suivre cette émission également en nous suivant sur Blue Sky. On publie pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors que recherche l'exobiologie précisément ? Des molécules organiques, des conditions planétaires, et quelles sont les pistes de recherche les plus prometteuses ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, l'exobiologie, c'est une science qui démarre, qui est en pleine expansion. Athéna Kousténis, comment pourrions-nous qualifier cette discipline hautement transdisciplinaire ?
Oui, effectivement, et ça attire beaucoup l'intérêt du public, parce que on parle bien entendu des conditions pouvant mener à l'apparition de la vie. Ça intéresse tout le monde. Comment on y accède? Alors, pour notre part, Thérèse et moi, en tant qu'astrophysicienne, on cherche effectivement ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité pour démarrer avant de chercher la vie, c'est-à-dire les choses qui nous permettent de vivre au jour d'aujourd'hui par extrapolation à ce qu'on a sur Terre. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour vivre, Natacha? Vous avez besoin d'eau, je le vois. Je vois
En effet.
Ensuite, vous avez besoin de vous nourrir, hein, je suppose, plusieurs fois par jour.
En effet.
Et puis, une source d'énergie, hein, parce que franchement, même avec l'hiver qui arrive, on a besoin de se réchauffer. Donc voilà ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité, des sources d'énergie, des nutriments et de la présence de liquide. Et c'est ça qu'on cherche un petit peu partout dans l'univers, et à commencer par notre système solaire.
Exobiologie, Thérèse Ancrenas, on a cette idée aussi que la biologie, c'est une science empirique, expérimentale, qui a un rapport au terrain. L'exobiologie, c'est pareil ?
Oui, absolument, bien sûr, bien sûr. L'exobiologie, moi je dirais qu'elle est née vraiment il y a une cinquantaine d'années déjà, avec la mission Viking, parce que c'était la première mission où on faisait vraiment des expériences scientifiques de recherche de signatures biologiques, qui aurait pu justement me montrer la présence d'une vie microbienne. Et ça, c'était un premier pas.
En effet, c'est avec cette mission, la mission Viking, où on voit appliquer les méthodes de la biologie sur Terre, mais ailleurs, sur Mars. C'est notre archive du jour, nous sommes en 1975.
815 millions de kilomètres en un peu moins de 11 mois, c'est-à-dire que pendant 11 mois, chaque heure, 100 000 kilomètres seront parcourus. C'est le long voyage que devra accomplir la sonde américaine Viking avant de se poser sur la planète Mars. C'est ce soir que l'engin sera lancé depuis Cap Kennedy, et Daniel Saint-Amand, c'est une date importante dans l'histoire de l'exploration de l'espace.
Oui, parce qu'en principe, grâce à Viking, on saura avec certitude si la vie existe ou non sur la planète Mars. Jusqu'à présent, on devait se satisfaire de photos plus ou moins précises prises à des milliers de kilomètres. La grande originalité des Vikings, car il y en aura deux lancés à 10 jours d'intervalle, c'est qu'ils constituent en fait de véritables laboratoires. J'ai pu voir la maquette grandeur nature de l'un de ces engins récemment au centre spatial de Houston, et ce qui est le plus frappant, c'est le degré de technologie qui a été développé pour ces missions. En effet, l'homme n'aura pas à se rendre sur la planète Mars, le Viking fera lui-même l'analyse du sol et il enverra les résultats vers la Terre par radio. À la NASA, on ne cache pas d'ailleurs que l'on ne s'attend pas à des formes de vie extravagantes, mais plus simplement à la présence de lichen ou de mousse à la surface de la planète Mars, ce qui constituerait déjà une surprise de taille. La politique n'est d'ailleurs pas exempte de cette expérience. C'est en effet le 4 juillet prochain, soit le jour anniversaire de l'indépendance des États-Unis, que Viking se posera sur la planète rouge. À la NASA, on considère ce programme Viking comme l'un des plus importants jamais entrepris, aussi important en tout cas que l'exploration de la Lune. Alors il ne reste plus qu'à attendre pour voir si les espoirs de l'administration américaine de l'espace sont réalistes.
Voilà un extrait du 20h de France Inter le 11 août 1975, donc la première mission avec un objectif exobiologique affiché. Athéna Koustenis, finalement avec Viking, bon bah pas de traces de lichen ni de mousse martienne, mais une annonce qui a fait grand bruit et un grand effet parmi la communauté scientifique.
Oui, alors à cette époque-là, effectivement, comme le disait Thérèse tout à l'heure, on est aux prémices hein, de ce qu'on appelle l'exobiologie. Hein. On n'est pas du tout encore à la recherche de ce qu'on appelle aujourd'hui effectivement les biosignatures ou les biomarqueurs, qui sont effectivement les traces d'une vie passée, présente sur un environnement comme l'environnement martien. Mais d'abord, il faut dire que les missions Viking, comme Thérèse l'a vécu à l'époque, était vu comme un échec, hein, parce qu'on n'a pas trouvé la vie. Et à cause de ça, je dirais, pendant plusieurs décennies, 20 ans...
Pendant 20 ans, il n'y a pas eu d'observation.
Il n'y a pas eu d'observation. Le programme martien s'est arrêté.
Mais parce qu'en effet, Viking, c'était un laboratoire, enfin, d'un point de vue expérimental, le laboratoire qu'on entendait d'ailleurs légèrement décrit dans cette archive était assez conséquent sur le terrain, Thérèse Amoncanaz.
Oui, absolument. Il y avait trois expériences différentes de biologie. Et bon, il y a eu des hésitations au début parce qu'il y a une expérience qui a donné un signal d'oxygène qui a été interprété au départ comme quelque chose d'encourageant. Et puis, il s'est avéré en fin de compte que ça n'était pas du tout une signature biologique. Donc, l'enthousiasme est retombé et la déception n'en a été que plus forte.
Ouais. Est-ce qu'en effet, cette détection d'oxygène, c'était un faux espoir, un faux positif, c'est ça, Athéna Koustenis?
Oui, c'était un faux positif, duquel d'ailleurs on a pu par la suite en déduire quand même quelques mesures et quelques informations sur la planète Mars qui ont conduit à la connaissance qu'on a aujourd'hui du fait que sur la planète Mars, même si au jour d'aujourd'hui il n'y a pas la vie présente et il n'y a même pas les conditions qu'on a rappelées tout à l'heure, les conditions d'habitabilité, il y a eu quand même par le passé la présence d'une atmosphère significative, avec aussi de l'eau qui coulait au niveau de la surface. Ça, c'est une annonce qu'on peut faire, Natacha, sans que ce soit une fausse annonce. On sait que par le passé, Mars a pu être habitable.
On le sait, et en effet, c'est aussi des choses qui orientent aujourd'hui les programmes de recherche contemporains, notamment le rover Perseverance. On y reviendra. En tout cas, entre-temps, depuis cette mission Viking, on est aussi rentré dans une nouvelle ère grâce à la découverte. C'est une révolution, le mot n'est pas galvaudé, la découverte révolutionnaire des exoplanètes en 1995. Thérèse Amoncanaz, cette découverte-là des exoplanètes, ça a permis de faire rentrer l'exobiologie dans son ère moderne?
Oui, tout à fait. Mais au-delà, ça a été une vraie révolution, je dirais, pour toute l'astrophysique. Parce que c'est pas tellement qu'on ait découvert une exoplanète, parce qu'après tout, depuis des siècles, on se doutait que peut-être il y en avait. C'est que les exoplanètes qui ont été découvertes, c'était des exoplanètes, une exoplanète géante à proximité immédiate de son étoile. Et ça, c'était contraire à tout ce qu'on pensait des systèmes planétaires. Donc, d'un seul coup, on comprenait que le système solaire n'était pas unique, mais aussi qu'il n'était pas du tout représentatif des autres systèmes planétaires. Et la vraie révolution, c'est ça, je pense.
Cette révolution-là qu'on continue de voir battre aujourd'hui dans les laboratoires et dans les cœurs des astrophysiciens, Athéna Koustenis, en effet, l'exobiologie, la recherche de vie ailleurs, s'appuie sur cette nouvelle discipline qui est aussi la planétologie.
Oui, et il faut dire tout d'abord que l'exobiologie, la planétologie et l'astronomie, parce qu'on parle aussi des étoiles autour desquelles nous avons trouvé ces systèmes planétaires, sont des choses qu'aujourd'hui on essaye de combiner et grâce auxquelles, avec ce qu'on appelle une planétologie comparative, on arrive à déduire des informations, comme le disait Thérèse, sur notre système solaire. Par exemple, on ne savait pas auparavant, on n'avait pas détecté la première exoplanète qui était à côté de son étoile. Ça n'arrive pas dans notre système solaire. Une géante une géante, une planète géante gazeuse, 51 Peg, qui est Pegasi, qui a été découvert par Michel Mayor et Didier Queloz, était à côté de son étoile, alors que nous, les planètes géantes, se trouvent beaucoup plus loin. Ça nous a conduit à développer la théorie de la migration des planètes, qui est effectivement une théorie qui est apparue avec les exoplanètes. Ça nous indique que le fait que notre système solaire n'est pas représentatif de tous les systèmes solaires, mais en plus qu'on a beaucoup de chance dans notre système solaire, parce que la chance qu'on a, c'est d'avoir 4 grosses planètes qui sont là-bas, très loin, et qui retiennent les petites planètes qu'on représente, les planètes terrestres, dont la Terre fait partie, les retiennent de tomber dans le Soleil, ce qui aurait conduit effectivement à un avenir assez désastreux pour nous.
Thérèse, donc, comment on étudie justement, comment déduire des informations de ces exoplanètes très lointaines, notamment sur ces conditions d'habitabilité qu'on vient de décrire à l'instant?
Alors, l'outil dont on dispose, en fait, c'est la spectroscopie, c'est-à-dire l'analyse de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Alors, quand on dit ça, des fois, ça effraie un petit peu le public, mais l'idée est assez simple. Il suffit de se rappeler de ce que c'est qu'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel décompose la lumière de l'ultraviolet à l'infrarouge dans le domaine visible. La même chose se produit dans l'infrarouge, donc à plus grande longueur d'onde. Et en fait, les analyses qu'on va faire, c'est rechercher la présence de certains éléments grâce au signal qu'on va mesurer. Parce que la spectroscopie est telle qu'à une longueur d'onde donnée, on peut associer un élément. Et si vous observez un signal, disons un changement de signal à une longueur d'onde donnée, à ce moment-là, vous pouvez dire cette molécule-là est présente. L'eau, par exemple, ou le méthane, etc. Donc c'est un outil extrêmement puissant qui vous permet d'analyser à distance la composition des astres. D'ailleurs, ça marche très bien aussi pour les étoiles, et toutes les étoiles, les planètes, les galaxies.
C'est ça, c'est que Athéna Koustanis, on a aussi, grâce au progrès de la spectroscopie, l'avènement de la spectroscopie atmosphérique. Et là encore, c'est un changement de gap dans la recherche en exobiologie.
Oui, on est très favorable aux recherches en atmosphère. Thérèse et moi, on a commencé par ça, on est parti ensuite à des recherches pour la surface, mais l'atmosphère, c'est ce qui indique effectivement l'environnement dans lequel se développe, par exemple, un habitat potentiel. Alors, vous avez donc des atmosphères dans lesquelles, effectivement, on trouve les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Quand on mentionne le méthane, comme vient de le dire Thérèse, c'est parce que le méthane, c'est à la base de la chimie organique. On revient aux nutriments dont on parlait tout à l'heure. On a besoin de nourriture pour de quoi constituer un micro-organisme. L'eau, on en a parlé tout à l'heure aussi. On trouve aussi des traces, par exemple, dans l'atmosphère terrestre, la vapeur d'eau. Et on essaie de détecter tout ça dans les atmosphères très, très lointaines, mais aussi dans notre système solaire. Parce que quand on fait des recherches aussi sur les autres planètes ou les satellites dans notre système solaire, on utilise aussi la spectroscopie. C'est un moyen très puissant qui est venu juste après la grande aventure de détection des exoplanètes, parce qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de détecter les exoplanètes avec les différentes catégories des exoplanètes et des systèmes exoplanétaires qu'on a trouvés. Et après, une fois qu'on a trouvé ces exoplanètes, on a au jour d'aujourd'hui 6000 ou même plus.
7000 presque.
7000, voilà. 000. Tous les jours, ça augmente d'exoplanètes détectées. Et ben, il faut les caractériser. Et c'est d'ailleurs le but d'une mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Ariel, qui va suivre les pas d'une autre mission qui s'appelle Plateau. Et ces deux missions combinées doivent nous apprendre dans la décennie à venir beaucoup plus sur les exoplanètes.
Le Plateau qui est prévu en effet pour 2026, oui. Et dont le but c'est justement de s'intéresser à une catégorie de planètes qui nous intéresse très précisément en exobiologie, ce sont les exotères finalement.
C'est vrai.
C'est-à-dire les exoplanètes qui semblent plus à même d'abriter la vie. Thérèse Engrenaz.
Oui, alors en fait, les exotères, il y a en fait également les superterres, c'est-à-dire des planètes qui ont une masse comprise, disons, entre celle de la Terre et puis une dizaine de masses terrestres, parce que ces planètes-là, on a de bonnes raisons de penser qu'elles sont rocheuses, à la différence des planètes géantes, dont la masse est suffisante pour retenir le gaz environnant. Le gaz étant en général l'hydrogène et l'hélium, c'est comme ça qu'on fait les planètes géantes. Or, pour avoir la vie, on pense qu'il faut une surface, ça fait partie des conditions. Et donc, ce sont les planètes rocheuses qui vont nous intéresser. Donc, dans les exoplanètes, il y a deux conditions à remplir. D'une part, que la planète soit rocheuse, et d'autre part, qu'elle soit à la bonne distance de son étoile. C'est ça qu'on appelle la zone d'habitabilité. C'est la zone où la surface pourrait abriter l'eau liquide parce que la température serait dans la plage correspondante à la température de l'eau liquide.
Voilà, ni trop près.
Voilà, ni
parce
trop
que trop
près,
chaud, ni trop loin. Ni trop loin. Athéna Koustanis.
Oui, tout à fait. Effectivement, dans les catégories d'exoplanètes qu'on cherche maintenant, qu'on va chercher avec les nouvelles missions, c'est plus seulement les grosses planètes qu'on a fait jusqu'à présent. Je dois dire aussi que pour complémenter plutôt les missions spatiales, on a aussi des grands télescopes au sol ou en orbite autour de la Terre. Il y a, n'oublions pas, James Webb, quand même, qui vient s'associer à Hubble. Et avec ces grands télescopes aussi au sol, on est capable maintenant d'effectivement pousser plus en avant cette quête de savoir si ces planètes rocheuses dont parlait Thérèse existent, si dans leur atmosphère on peut détecter ces éléments, les biosignatures, les biomarqueurs qui caractérisent la vie telle qu'on la connaît sur Terre.
Bien justement, quels sont ces biomarqueurs, ces biosignatures et quelles sont les conditions nécessaires finalement à l'émergence de la vie ailleurs ? Restez à l'écoute, on y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Thérèse Ancrenaz et Athéna Koustanis, nous parlons d'exobiologie, la recherche de l'émergence et de l'évolution possible de la vie sur notre planète, mais surtout ailleurs, au-delà. On vient d'évoquer la mission Viking, la première mission où les sciences de la vie étaient mises au cœur de l'exploration spatiale. C'était en 1975 et nous parlions des progrès technologiques qui ont été faits depuis. Aujourd'hui, nous cherchons donc des biosignatures, Athéna Koustanis. Alors, qu'est-ce que c'est une biosignature ? C'est une molécule, une substance, une observation qui ne peut s'expliquer que par l'existence d'une forme de vie.
Tout à fait. Bah, vous avez tout dit. Bah, c'est exactement ça. C'est des marqueurs, c'est-à-dire des éléments qu'on peut trouver. Ça ne sera pas la mousse qu'on cherchait peut-être sur Mars, mais ça peut aller d'un micro-organisme, d'une molécule qui correspond en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'on recherche, par exemple, l'eau, des composantes de l'eau. Ça peut être l'oxygène, ça peut être l'ozone, ça peut être aussi le méthane, ça peut être les produits du méthane. Nous avons au jour d'aujourd'hui, dans les exoplanètes déjà, détecté un certain nombre parmi ces atomes et ces molécules. Il y a l'oxygène, il y a l'hydrogène, il y a le carbone. Après, on a détecté des molécules, comme par exemple la molécule de l'eau, on l'a déjà détectée avec Spitzer. On a le méthane, on a l'ammoniac, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, etc. Donc, on trouve ces biomarqueurs. Après, il faut les associer. Ça ne suffit pas de trouver juste les molécules. On a dit que tout à l'heure, les conditions d'habitabilité sont plus nombreuses que ça. On a trois conditions. Il faut qu'il y ait effectivement par la suite poussé plus en avant de sources d'énergie. Et il faut qu'elles soient à la bonne distance. C'est pour ça que le système de TRAPPIST, par exemple, nous a beaucoup intéressés. C'était une annonce aussi, il y a quelque temps, avec les 7 planètes qui composent le système, dont plusieurs se trouvent dans cette zone d'habitabilité, c'est-à-dire à une distance où la température et la pression à la surface, parce qu'il faut qu'il y ait aussi une certaine pression à la surface d'une planète ou d'un satellite, permettent la présence de liquide. Et là, on parle de la surface, d'accord ? On verra peut-être plus tard qu'il y a d'autres moyens d'avoir le liquide. Mais c'est tout ça, ensemble, qu'on essaye de détecter.
TRAPPIST, où finalement, on avait beaucoup d'espoir sur ce système-là, Thérèse Ancrenaz, mais finalement, pas d'atmosphère.
Pour l'instant, non, effectivement. Alors, il faut peut-être préciser un peu ce que c'est que ce système. C'est autour d'une étoile extrêmement petite. On a trouvé 7 planètes qui sont toutes en orbite, donc la moitié d'entre elles, à peu près, sont dans la zone d'habitabilité. Mais le système est tout petit, je crois, parce que tout tiendrait à l'intérieur de 0,01 unité astronomique, c'est-à-dire sachant que Mercure est à 0,3. Donc c'est un tout petit système, miniature en quelque sorte. C'est vrai qu'on avait mis beaucoup d'espoir, parce que effectivement la zone d'habitabilité était respectée, mais jusqu'à présent, le JWST n'a pas détecté d'atmosphère autour des 2 ou 3 objet qu'il a déjà étudié. Mais la recherche continue.
La recherche continue, puis on parle de ces biomarqueurs. Et vous dites, Athéna Koustianis, en effet, que c'est un ensemble de biomarqueurs qui intéressent les chercheurs, et notamment les schnops.
Ça, ah, oui.
On s'amuse beaucoup avec les schnops.
Voilà. Maintenant, chaque fois qu'on fait une conférence avec Thérèse, les gens partent le soir en se disant, je rentre chez moi manger des schnops. Les schnops, c'est les molécules les plus abondantes qu'on trouve et qui marquent effectivement...
Dans la matière vivante.
Dans la matière qui marque la vie sur Terre, c'est-à-dire carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Donc voilà, c'est ça les fameux schnops, et vous ne le savez pas, mais c'est ce que vous mangez tous les jours, régulièrement, et c'est ce qui constitue effectivement la matière vivante telle qu'on la connaît.
C'est ça, vous nous parliez de nutriments, ce sont ces schnops. Mais alors, pour qu'il y ait des réactions puissent aboutir à un métabolisme, donc un début de vie, vous nous disiez également qu'il fallait une source d'énergie nécessaire.
Une source d'énergie et en plus un système stable, parce que le métabolisme, pour se développer, il lui faut du temps. Et donc, une source d'énergie, par exemple, chez nous, ça peut être le soleil. Là, c'est ce qu'on utilise, nous, comme source d'énergie. Pour des planètes ou des objets qui sont beaucoup plus loin de leur étoile, il y a d'autres sources d'énergie. Il y a les sources d'énergie qui proviennent des effets de marée. Il y a les sources d'énergie de sources chimiques, qu'on peut trouver aussi au fond des océans. Il y a donc différentes sources d'énergie. Par exemple, on peut trouver, quand on voit des geysers quelque part, quand on sait qu'il y a du volcanisme, ça c'est une source d'énergie aussi. Et donc, il y a différentes sources d'énergie, mais sans ça, vous ne pouvez pas faire en sorte que les réactions chimiques se fassent. Donc, c'est absolument nécessaire. Et la survie de la vie aussi, dans un environnement, a besoin aussi de ces sources d'énergie.
Alors, c'est pas le tout de mettre les mains sur des... Enfin, c'est pas facile de mettre des mains sur des schnops, mais finalement, des molécules organiques, on en a trouvé quand même des tas dans l'espace. Faut bien se rendre à l'évidence que c'est pas synonyme du tout d'activité biologique terrestre.
Oui, absolument. Il faut faire la distinction. Les molécules organiques, on en trouve en quantité. Dans le milieu interstellaire, par exemple, on trouve... je crois qu'il y a plusieurs centaines de molécules qui ont été découvertes comme ça dans l'espace, et la plupart sont à base de carbone. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on pense que si on cherche la vie ailleurs, ben, le carbone est une bonne piste. Parce que c'est un atome qui se lie très facilement avec ses quatre valences. Il favorise les réactions chimiques. Donc, ça n'est pas trop anthropomorphique que d'imaginer que ailleurs, l'eau liquide, c'est pareil. On ne trouve pas de molécules qui soient l'équivalent de l'eau liquide en termes de solvants. Donc ce sont vraiment des conditions dont on peut raisonnablement penser qu'elles seront valables bien au-delà de la Terre.
Oui, vous parliez de cette chimie du vivant qui s'articule autour du carbone. C'est vrai qu'il y a des hypothèses très hypothétiques qui émettent les hypothèses selon lesquelles ça s'articulerait autour de la chimie du silicium, par exemple. Mais le carbone est en effet...
Le problème du silicium, c'est que déjà, il y en a beaucoup moins. Et puis, si vous regardez dans le milieu interstellaire, il n'y a pas de molécules qui combinent beaucoup d'atomes de soufre. Ils ne font pas du tout de chaînes, ils ne font pas du tout... Le carbone, il fait soit des chaînes, soit des cycles. Et ça, c'est le seul atome qui a toutes ces capacités-là.
Athéna Koustianis, parce qu'en effet, une molécule organique, ça peut aussi être complètement le fruit de processus géologiques, de processus dits abiotiques.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, chaque fois qu'on fait une détection, il faut effectivement regarder ce qu'on appelle les rapports isotopiques aussi, qui nous renseignent sur le fait de savoir si c'est d'origine biologique ou si c'est d'origine abiotique, comme vous dites, c'est-à-dire pas du tout provoqué par la vie, mais par des réactions chimiques complètement indépendantes de la présence ou non d'êtres vivants. Et ces rapports-là, effectivement, c'est quelque chose qu'on mesure régulièrement pour être sûr et certain que ce qu'on détecte provient effectivement... Et jusqu'à présent, je dois dire, mais on n'a pas encore fini nos recherches, bien entendu, on n'a pas trouvé ces molécules-là en provenance, que ce soit par exemple dans les astéroïdes, les comètes, on les trouve dans le milieu interstellaire, comme disait Thérèse, on les trouve aussi sur d'autres planètes et d'autres corps, mais on n'a pas détecté effectivement ces molécules où on peut affirmer que c'est d'origine... biotique.
Biotique. Alors on a eu cette grande annonce parue dans la revue Nature en septembre, dans le cratère G0, Persévérance, qui découvre une roche aux structures étranges avec des composés chimiques qui sont difficiles à expliquer sans vie microbienne. Oui. Teresa Ancrenaz, la NASA a même parlé d'une première biosignature potentielle.
Oui, bon, comme d'habitude, la NASA, on est habitué, hein, on sait bien qu'il y a toujours un effet de surenchère. C'est vrai que c'est une découverte intéressante, il ne faut pas la sous-estimer. Je crois qu'elle montrait pour la première fois qu'on avait des processus d'oxydoréduction, c'est-à-dire d'échange d'électrons entre différents éléments, Et ça, c'est une condition nécessaire pour avoir une complexification de la chimie. Donc c'est une première étape, si vous voulez, qui va un peu au-delà de ce qu'on avait vu avant. Mais c'est tout. Ça n'est pas du tout une preuve de vie, absolument pas. D'ailleurs, je crois que les réactions ont été unanimes après l'annonce de la NASA pour remettre les pendules à l'heure, disons.
Oui, ce qui est important, si vous voulez, dans ce projet, dans cette campagne en fait de mission, c'est que ces échantillons qui ont été ramassés, il y a une quarantaine environ par Persévérance, et on fait partie en France d'ailleurs des instruments à bord de la mission Mars 2020, dont Persévérance est un des éléments. Ces échantillons sont ramassés et enfouis à différents endroits dans l'espoir qu'on pourra un jour les récupérer, les ramener sur Terre, parce que sur Terre, bien entendu, les analyses qu'on peut faire sont beaucoup plus élaborées qu'est-ce qu'on peut faire avec une mission sur place. C'est le projet Mars Sample Return de la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et, comme je le disais, beaucoup de pays en Europe. Et on a toujours l'espoir, malgré le fait qu'actuellement, au niveau de la NASA, ils ne savent pas très bien à quelle sauce ils vont être mangés, que ces échantillons retrouveront leur chemin pour être analysés plus à fond dans les laboratoires terrestres.
Là, en l'occurrence, sur cette étude et cette annonce faite en septembre, là, ce qui a été observé, c'est qu'on voit quelque chose qui ressemble beaucoup à la vie, mais qui n'en est pas, enfin, du moins, on ne peut pas encore l'affirmer. Qu'est-ce qui a été détecté plus précisément?
Oui, non, exactement. Comme le disait Thérèse, on voit un processus qui a lieu, qui s'opère sur place, avec cet oxyde de réduction qui est à la base.
On prend des atomes de fer et on les associe plus ou moins avec l'oxygène ou avec l'hydrogène. C'est ça qu'on appelle en fait l'oxyde de réduction. Et les échanges d'électrons qui ont lieu quand on fait ces échanges, ça donne des sources d'énergie qui sont à la base d'une chimie plus complexe. Mais on est encore très 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 loin de l'apparition de la vie, il faut bien réaliser ça.
Oui, c'est ça que j'allais dire.
Ou des macromolécules qui sont vraiment le produit à partir qui sont à la base déjà de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui sont le produit in fine de justement cette chimie. Ça fait partie des sources d'énergie dont on parlait tout à l'heure qui sont disponibles. Par exemple, on peut avoir la serpentinisation au fond des océans terrestres où on trouve la vie, on trouve du vivant qui arrive à survivre et à se développer dans des conditions complètement extrêmes. Ce sont les fameux extrémophiles.
Les fameux extrémophiles dont on va parler dans quelques instants, puisqu'on va aller se tourner du côté de nos lunes glacées de notre système solaire. Mais alors, pour savoir si, par exemple, on fait une détection de biomarqueurs, d'un ensemble de biomarqueurs intéressants, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on passe d'une première biosignature potentielle à une signature de vie, finalement? La recette, Athena Koustenis.
Non, mais on a peut-être des avis différentes, mais quand on a écrit notre livre, justement, on s'est posé tout d'abord la question de chercher quelles étaient les définitions de la vie. Les définitions du vivant sont nombreuses et il y en a qui vous diront que, par exemple, il faut que, pour que ce soit du vivant, il faut que ça se reproduise. Il y en a qui vous diront, pour que ce soit du vivant, il y ait telle et telle, telle et telle condition. Donc, effectivement, Je pense que l'étape suivante, ce serait vraiment que on détecte ces organismes et que ces organismes-là, comme le dit dans Stephen Hawking dans un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, on arrive à les voir vivre, c'est-à-dire les détecter dans leur milieu, à les voir se déplacer, se reproduire et éventuellement former des colonies. Il a plusieurs critères dans ce sens-là. Est-ce que ça, encore, ça sera la vie?
Mais là, on n'en est pas là.
Non, on n'en est pas là du tout.
Et déjà, d'ailleurs, si on se tourne à nouveau vers les exoplanètes, on a identifié quelques biomarqueurs, en particulier, par analogie, bien sûr, avec ce qu'on sait sur la Terre, on va, avec le JWST, on va rechercher l'ozone. L'ozone, c'est un produit de dissociation de l'oxygène qui se trouve être beaucoup plus facile à détecter par spectroscopie que l'oxygène lui-même. Parce que c'est la structure de la molécule qui veut ça. Mais encore faut-il être extrêmement prudent. Est-ce que si on a l'ozone, est-ce que ça veut dire qu'on a des mécanismes comme on en a eu sur Terre? C'est pas si sûr. Première condition, il faut déjà que l'étoile soit de type solaire. Parce que si c'est une étoile d'un type différent. Toute la photochimie va être différente. Vous pourriez imaginer une photochimie qui vous produit de l'oxygène en l'absence de processus biogéniques. Donc, il faut faire extrêmement attention à tout ça. Et je crois qu'on ne sera jamais trop prudent avec les biomarqueurs.
Et avant de partir loin, très loin sur l'exploration des exoplanètes, on va quand même continuer à explorer notre système solaire. Pourquoi les lunes de Saturne ou de Jupiter sont-elles les meilleures candidates pour l'instant pour débusquer des traces de vie? Restez à l'écoute, on y arrive. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, meaning of the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? David Bowie, Life on Mars, en direct sur France Culture, car on parle de la recherche de vie sur Mars ou ailleurs. On parle d'exobiologie en compagnie de nos deux invités du jour. Thérèse Ancrenaz, directrice de recherche émérite CNRS au laboratoire LIRA, et Athéna Kousténis, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris PSL, directrice de recherche CNRS au LIRA. On vient de parler des débuts de cette discipline, une discipline qui continue de progresser et qui s'intéresse à de nouveaux horizons, pas si lointains, notre système solaire, les lunes saturniennes, Titan et Encelade, Europe, lune de Jupiter. Alors, je dis pas si lointaine, mais on est quand même sur des corps célestes très éloignés de ce qu'on vient de définir, de la zone d'habitabilité. On est sur des corps redoutablement froids, autour de moins de 100 degrés en moyenne. Athéna Kousténis, pourtant ce sont là où les espoirs se placent pour trouver peut-être des traces de vie.
Oui, comme on le disait tout à l'heure, les planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ne présentent pas les conditions. Ils n'ont pas de surface, c'est du gaz, on ne peut pas considérer que ces planètes-là, les grosses planètes, peuvent abriter la vie. Par contre, ils ont des satellites. Elles ont des satellites. Et ces planètes-là, ces satellites qui sont pas très petites, hein, par exemple Ganymède et Titan font à peu près la moitié de la taille de la Terre. On a découvert par les missions spatiales, notamment Galileo, et puis par la suite Cassini-Huygens essentiellement, et d'autres missions qui sont passées dans le système solaire externe, qu'elles montraient des signes de resurfacement, comme on appelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu de l'intérieur et qui s'est déposé au niveau de la surface. Et ce quelque chose, c'est une chose importante, c'est de l'eau. Et cette eau, on a pensé que ça pourrait se trouver sous forme liquide, parce que c'est l'équivalent de ce qu'on trouve à l'Antarctique, sur Terre, par exemple. On voit ces morceaux de glace qui se déplacent parce que l'eau vient de l'intérieur, elle les casse et reforme la surface. Ça, c'était sur Europe. Et puis par la suite, quand on est arrivé avec Cassini-Huygens en 2004, à proximité d'Encelade, qui a volé la vedette à Titan, mon objet préféré, Encelade avait des geysers. Et pour avoir des geysers, il faut la source d'énergie dont on parlait tout à l'heure et un océan de liquide sous la surface. Et en analysant justement les spectres de ces geysers, qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? Des organiques. Donc je vous pose la question, quand je vous dis que ces trois éléments, ces trois conditions existent, sur Encelade, vous vous dites, ça peut être un habitat, sauf que l'eau à ce moment-là, comme vous l'avez dit, c'est très très loin du Soleil. L'eau ne se trouve pas au niveau de la surface parce qu'il fait très froid. Il se trouve à l'intérieur. Donc à l'intérieur, ces océans d'eau liquide dans ces satellites peuvent faire des ordres de grandeur, peuvent contenir des ordres de grandeur plus d'eau liquide que tous les océans terrestres mis ensemble. Donc de l'eau liquide, il y en a.
Donc la planète bleue, finalement, c'est...
C'est des mondes d'océans, oui.
C'est en cela, et puis on parlait tout à l'heure des nutriments, en cela est aussi intéressant, puisque cette eau liquide est donc en contact avec cette strate tellurique, la roche de la, de la Lune, Athéna Koustenis.
Ou
Thérèse Ancrenaz.
Oui, oui, tout à fait. L'intérêt de ces deux objets, c'est que, d'après les modèles, les océans liquides sont en contact avec le sol, le noyau silicaté. Et donc, possibilité d'échange. Les nutriments, ils sont au fond. Et on peut justement imaginer une chimie très active, un peu à l'image des sources hydrothermales qu'on a sur Terre. Et c'est ça, en fait, le modèle auquel on pense immédiatement quand on pense à ces habitats-là.
Et comme les impacts, si vous voulez, des comètes et des astéroïdes, c'est la même chose qu'on pense aussi sur Terre, apportent ces éléments, ces organiques par exemple, ces oxydants, au niveau de la surface. Et après, toute la question, c'est de savoir si on peut pénétrer jusqu'à l'intérieur de ces océans. On a le contact avec le cœur silicaté, c'est les mêmes conditions que sur notre planète. Donc, effectivement, ça nous interpelle et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller regarder de plus près. Il y a ces deux objets, Encelade Europe, où on pense que les océans d'eau liquide sont très proches de la surface. Et ça, c'est très important, comme je le disais, du fait qu'il faut que ces éléments pénètrent de la surface dans les océans. Et il y a aussi d'autres satellites, Mimas...
Ton Titan, ton préféré.
Et Titan et Ganymède, qu'on va explorer avec Juice. Toute la question, c'est de savoir s'ils ont une croûte beaucoup plus épaisse de glace au-dessus de cet océan. Est-ce qu'on peut quand même diffuser les éléments dont on a besoin dans l'océan?
Oui, parce que ce que disent les modèles, en fait, c'est que dans le cas de Titan et Ganymède, l'océan liquide doit bien être présent, mais piégé entre deux couches de glace. Et là, l'intérêt exobiologique est évidemment beaucoup plus limité. Si c'est le cas.
Vous évoquez sur Encelade le fait qu'on pourrait s'attendre à y trouver des sources hydrothermiques, comme on voit sur notre planète. Thérèse Ancrenaz, ça veut dire qu'on peut aussi faire l'hypothèse que si sources hydrothermales existent, on pourrait peut-être trouver ces mêmes extrémophiles qui fréquentent les bas-fonds océaniques.
On a envie de faire l'analogie, disons. On ne peut pas aller plus loin pour l'instant.
Oui, en fait, c'est une question extrêmement importante, je pense, pour l'exobiologie, parce qu'on a commencé tout à l'heure en parlant des conditions d'habitabilité, et quand vous avez ces conditions d'habitabilité, vous faites check, 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 alors j'ai la source d'énergie, les nutriments, les schnapps, j'ai aussi l'eau liquide, est-ce que la vie peut se développer sous une surface où il y a la luminosité, le soleil, on est à 10 unités astronomiques ou 5 unités astronomiques, on est très loin du soleil, mais on a des sources d'énergie d'une forme différente. Alors la question se pose de savoir si la vie telle qu'on la connaît peut se développer ou c'est une vie, une forme de vie peut-être un petit peu différente qui s'adapte à des conditions comme on a au fond des océans terrestres, par exemple.
Oui, parce que sur Titan, on voit des lacs non pas d'eau, mais de méthane, d'éthane liquide. On peut aussi imaginer, vous voulez dire, une autre forme de vie comme on ne peut pas l'imaginer ici sur notre planète.
Oui, il y a des gens qui ont imaginé sur Titan des méthanogènes, qui sont des molécules qui, au lieu d'avoir besoin, par exemple, d'eau liquide, ont besoin de méthane liquide, qu'on trouve effectivement sur Titan en quantité. Nous, on part du principe que la première chose à faire, c'est effectivement extrapoler la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Ça sera le moyen le plus simple, facile, voilà, de faire une exploration utile et efficace. Mais après, comme je le disais, d'autres formes de vie, et ça sera très intéressant de voir aussi pour les exolunes qui sont des lunes autour des exoplanètes.
Vaste programme, on continue.
On n'a pas encore détecté, précisons-le quand même, mais qui vraisemblablement doivent exister.
Absolument.
Tout à fait, on continue d'explorer notre système solaire à la recherche de traces de vie avec notre reportage du jour. Les comètes sont de petits corps du système solaire qui, potentiellement, ont charrié sur notre planète des éléments prébiotiques propices à l'essor de la vie sur Terre. Expérimentalement, on peut examiner leur composition en simulant les conditions physico-chimiques de l'espace. Pour découvrir ces expériences, nous sommes allés au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques de l'Université Paris-Est Créteil. C'est avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, expérimentalement oui, on peut simuler la composition et l'évolution des comètes, et notamment les glaces qu'elles portent dans leur noyau. Le professeur Hervé Cotin, astrobiologiste et impliqué dans l'ex-mission phare Rosetta, nous amène à découvrir deux expériences qui permettent de sonder leur composition. Un cryostat couplé à un spectromètre de masse qui simule la chimie des glaces cométaires, ainsi qu'un tout nouveau type d'analyseur basé sur l'extraction chromatographique par fluide supercritique. Une technologie imposante et qui ambitionne déjà d'embarquer sur des prochaines missions spatiales.
On a un dispositif qui nous permet de recréer des mélanges de glace à glace d'eau. On va aussi avoir de la glace de dioxyde de carbone, de la glace d'ammoniac, la molécule NH3, de la glace de méthanol, c'est un petit alcool, CH3OH. Toutes ces molécules sont présentes dans le milieu interstellaire. Ces molécules, on les voit même dans l'atmosphère de la comète. Donc quand on réfléchit à la composition du noyau, à l'intérieur du noyau, on va avoir justement toutes ces glaces qui sont mélangées. Et donc là, ici, vous avez ce tube de métal avec plein de robinets, des tuyaux qui partent dans tous les sens. Ce dispositif est connecté à une pompe qui est en dessous, là, la grosse boîte grise, qui va faire le vide, qui va retirer l'air de l'ensemble des conduits. Et ensuite, on peut connecter aux différents robinets, par exemple un ballon avec de l'eau, une bouteille de gaz comprimé avec de l'ammoniac. On met ces réservoirs de molécules connectées. Et puis, on va ouvrir les robinets et faire rentrer justement la vapeur d'eau, l'ammoniac, la vapeur de méthanol, qui vont se mélanger dans le tube. Et ensuite, on va suivre les tubes qui vont arriver ici. On a à nouveau deux robinets, et on va rentrer dans cette enceinte. Et cette enceinte, c'est une espèce de petit chaudron métallique, circulaire, qui est fermé, dans laquelle on va faire le vide aussi. Donc, on chasse tout l'air de la pièce. Et au-dessus, on a cette espèce de tête métallique qui est en fait un cryostat. Et ce cryostat va nous permettre de faire descendre la température. Et on va avoir à l'intérieur de l'enceinte une zone qui va être portée à environ moins 260, moins 250 degrés.
Proche du zéro absolu.
Ouais, le zéro absolu, c'est moins 273. Donc on est tout près du zéro absolu. Et donc notre mélange de vapeur, de gaz va venir se geler sur le dispositif qui est refroidi. Et à côté, là, vous avez cette boîte bleue, là, et c'est un spectromètre infrarouge. Et donc, ce spectromètre infrarouge, on va l'allumer et on va venir regarder la composition de la glace. Donc, on va avoir l'empreinte infrarouge de la glace, et donc, on va voir les signatures de l'eau, du méthanol, de l'ammoniac, si on prend ces trois molécules. Et puis après, on a à l'extérieur, là, l'autre boîte, de l'autre côté, ouais, de l'autre côté, un détecteur qui va enregistrer justement cette empreinte. Et ensuite, on va connecter, par exemple, ici, sur cette interface, on peut mettre une lampe UV, et la lampe UV va simuler le rayonnement du soleil ou d'autres étoiles qui vont irradier les glaces, et ça va induire des transformations chimiques. Et donc, on voit qu'on part de trois molécules, il va s'en former des dizaines et des dizaines d'autres, à un stade tel qu'avec l'infrarouge, on n'arrivera pas à bien distinguer tout ce qui est formé. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs heures, parfois plusieurs jours d'irradiation, on va arrêter l'expérience, on va ramener l'expérience à température ambiante, et puis on va prendre le support. Et ce support, on va l'analyser avec d'autres techniques qui vont nous permettre de détecter l'ensemble des molécules qui sont présentes.
De la chromatographie
ou... Oui, exactement. On peut faire de la chromatographie, on peut faire en phase gazeuse, en phase liquide. On a un instrument vraiment très récent qui fait de l'extraction en fluide hypercritique, qui est dans une salle à côté, qu'on peut aller voir aussi.
Ah,
ouais. On va y aller. On arrive dans ce laboratoire.
J'ai plus chaud ici.
Ah ouais, oui, bah c'est justement parce qu'il y a plein d'instruments qui...
turbinent.
Qui turbinent et ça chauffe. Et donc, voilà, ce nouvel instrument, il faut se faufiler par là pour le voir. Donc c'est, on voit, alors il prend de la place, hein, il prend toute une paillasse de chimie.
Il y a des unités centrales empilées.
Oui, c'est vrai, ça fait penser à des gros ordinateurs de bureau là. Mais on voit effectivement, il y a quatre boîtes, grosses boîtes rectangulaires. Dans cette première partie, on peut réaliser l'extraction, c'est-à-dire que on a une bouteille de CO2. Gazeuse, d'air comprimé, et on va l'introduire dans une cellule dans laquelle on peut mettre justement par exemple une poudre de météorite. Donc le CO2 va être porté à haute pression, haute température. Au-dessus, vous avez des bouteilles.
Ouais, super critique, du coup.
C'est ça, ouais. On peut le mélanger à des bouteilles de différents solvants que vous voyez au-dessus. Donc on va mélanger le gaz, le liquide, on va le porter à l'état super critique. Et donc ça va interagir avec la poudre. Et justement de cette poudre, on va réussir à sortir la matière organique. Et ensuite, bah, tout ce qu'on a sorti, ça va passer ici. Là en fait, la colonne chromatographique, qui va être ce petit tube là que vous voyez ici.
C'est ouvert du coup le capot là.
Ouais, ce petit tube. On va faire circuler justement ce mélange à l'état supercritique avec la matière organique. Et donc... dans la colonne, les molécules organiques vont être séparées. Et donc, on va, au lieu d'avoir tout mélangé, en fonction de la nature de la molécule, et va mettre plus ou moins de temps pour traverser le circuit. Et la dernière boîte ici, ça va être le spectromètre de masse. Et le spectromètre de masse, c'est un genre de balance moléculaire. C'est-à-dire que les molécules vont sortir une famille après l'autre et vont être à la fois cassées en morceaux. Chaque molécule va avoir une espèce de signatures de fragmentation différentes, et ces fragments sont pesés par le spectromètre de masse. Donc on a à la fois une séparation en temps et à la fin une mesure d'empreinte de masse de chaque molécule, ce qui nous permet d'identifier avec une relativement bonne précision la nature des molécules qui sont présentes.
Merci Céline Lauzen. Nos reportages loin du studio, c'est notre collection La Science au Labo. Et cette semaine, Céline Lauzen, votre nouvelle série documentaire est disponible, Science en son, pour LSD, la série documentaire où comment le son nous permet d'explorer le réel des glaciers au cosmos. C'est à retrouver sur l'application Radio France. Thérèse Onconaz, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, je trouve qu'il illustre parfaitement à quel point l'exobiologie est une science pluridisciplinaire. On a besoin vraiment d'observateurs, on a besoin de théoriciens et on a besoin d'expérimentateurs comme Hervé Cotin et son équipe qui font donc des expériences de simulation en laboratoire pour essayer de comprendre quelles sont les réactions chimiques qui peuvent intervenir dans les milieux auxquels on n'a pas accès, comme les comètes.
Votre réaction, vous, ici, Athéna Koutenis?
Oui, effectivement, on a l'impression d'écouter quelqu'un qui décrit la réaction Urey-Miller. Qui
oui, exactement,
effectivement,
je pensais à Urey-Miller aussi.
C'était la réaction où ils essayaient de reproduire la vie en laboratoire en mettant ensemble tout ce dont on a parlé tout à l'heure et en faisant aussi des sources d'énergie par des
rayonnements UV.
Des rayonnements ou des choses
comme ça. Des décharges électriques.
Voilà, des décharges électriques et on a toujours essayé, hein. On n'a pas encore réussi aujourd'hui de voir sortir un petit micro-organisme qui me ferait coucou, mais effectivement, c'est toutes ces expériences-là, on a besoin, c'est interdisciplinaire et d'ailleurs dans la Société française d'exobiologie, où Hervé était aussi
le président jusqu'à très récemment.
Ils font des réunions et ils ont des membres qui viennent de toutes les disciplines.
Alors, partons sur des horizons encore plus lointains avec, en effet, cette recherche en exoplanètes qui, on l'a dit, l'exobiologie est entrée dans son ère moderne depuis cette première détection. On a évoqué même la belle image des exolunes. En attendant, on a une annonce, encore un effet d'annonce qui a été très médiatisé. C'est celle qui a été faite autour de l'exoplanète K2-18b, planète de type sub-Neptune, environ 2,6 fois le rayon de la Terre, en orbite autour d'une naine rouge de la constellation constellation du Lion. Elle est à 124 années-lumière de la Terre. Et là encore, stupeur, on détecte des traces de sulfure diéméthyle dans son atmosphère. Alors sur Terre, ça c'est une molécule qui est produite par des organismes vivants, en particulier le plancton. Donc là encore, Athéna Kosthénis, biosignature, donc prudence de mise.
Oui, effectivement, K2-18b, on se croirait en plein Star Wars. Effectivement, c'est une planète qu'on appelle ICN ou icéanique. Alors, c'est une planète qui fait 9 fois plus massive que la Terre, par exemple, il faut le dire. Donc, c'est le type de planète qu'on trouve pas dans le système solaire. Donc, elle est plus massive que la Terre, mais moins massive que les planètes géantes. Et cette planète-là, effectivement, déjà avec James Webb, on avait détecté des molécules, par exemple, qui contenaient le carbone, le méthane, le dioxyde de carbone. Et cette annonce-là, cette nouvelle découverte, a mis en place la présence de sulfure de diméthyle, des MES pour les amateurs. Et cette planète-là, ce qu'on pense aussi, pourquoi on l'appelle ICN et icéanique, c'est parce que non seulement par rapport à sa taille, plus grande que la Terre et plus petite que les planètes géantes, mais on pense qu'elle est recouverte d'un océan de liquide. Donc ce type de planète, comme je le disais tout à l'heure, ça n'existe pas dans notre système solaire, mais la présence de sulfure de diméthyle, effectivement, sur Terre, ne vient que par la vie, notamment par le phytoplancton, comme vous venez de le dire. Sauf que, effectivement, même les découvreurs eux-mêmes, dans leur papier, disent bien que l'interprétation biologique, c'est pas la seule possibilité pour expliquer la présence de cette molécule. Il faudrait faire beaucoup plus, mais déjà, le fait de détecter le carbone, le dioxyde d'oxygène et le méthane, c'est vraiment très très important. Ça nous avance un petit peu sur la quête de ce type de planète.
Teresa Ancona, sur cette annonce qui a fait beaucoup de bruit en effet.
Oui, je pense qu'en effet, elle a été pas mal survendue. Je voudrais dire aussi d'ailleurs qu'au départ, on avait annoncé qu'il y avait de la vapeur d'eau dans cette planète. Et puis, quand le JWST a regardé de plus près, on s'est aperçu que c'était des signatures de méthane et non pas de vapeur d'eau. Parce que les deux molécules ont parfois des signatures qui sont assez proches. Donc, en fin de compte, on a, je crois, à ma connaissance, il n'y a pas de signe de vapeur d'eau dans cette exoplanète, ce qui est quand même, a priori, pas très favorable. Donc, méfiance.
méfiance. En tout cas, ça nous enseigne que ces exo-atmosphères, on voit bien qu'on peut chercher à observer soit les conditions d'émergence de la vie, soit les traces même de la vie, Athéna Kosthénis.
Oui, que ce soit dans ces atmosphères, où tout à l'heure on parlait de Mars, par exemple, le fait de trouver des traces de vie sur Mars, c'est extrêmement important. Et je voudrais souligner le fait que ça voudrait dire que la vie a pu apparaître dans deux endroits différents dans notre système solaire. Ça multiplie les possibilités de trouver la vie, même à l'extérieur de notre système solaire ou à l'intérieur, par des grands facteurs. Donc, c'est très important de chercher des traces de vie ou de la vie présente. Et puis, le fait de découvrir des planètes qu'on n'a jamais imaginées, parce qu'elles n'existent pas dans notre système solaire, c'est excitant aussi. Hein. Je veux dire, ce type de planète qu'on ne connaissait pas auparavant, ou les systèmes planétaire, où on voit effectivement les grosses planètes à côté de leurs étoiles, ça fait que les théories qu'on développe au jour d'aujourd'hui sont beaucoup plus élaborées et beaucoup moins géocentriques.
Et en tout cas, merci, merci pour de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbeau. Mais je rappelle que votre ouvrage « L'énigme de la vie dans le cosmos » aux éditions Erol est disponible en librairie. Très bel ouvrage, très bien illustré. Merci à vous deux. Je profite également d'un petit mot pour vous annoncer que j'ai l'honneur d'être la marraine du festival Ciné-Sciences, le festival de documentaire scientifique de l'Université Paris-Cité. L'ouverture de la 3e édition, c'est ce soir jusqu'au 1er décembre. Très belle sélection de documentaires. C'est gratuit, c'est au campus des Grands Moulins et on vient de publier sur notre compte CQFD toute la programmation. Et tout de suite, c'est la chronique avec Science.
Le sport peut-il aider à la conservation des espèces? C'est un mélange des genres assez étonnant. L'écologie dans le sport a surtout été abordée par les sports de nature. La randonnée, le VTT, le trail, l'escalade ou le surf. Des sports qui se pratiquent donc à l'extérieur, là où on peut être au plus près de la faune et de la flore sauvage et où une conscience écologique va un petit peu de soi. Mais quand on regarde d'autres sports très populaires, ceux des stades, bien loin de la nature, il semble y avoir un certain paradoxe. Hugo Arbieu est chercheur à l'Université Paris-Saclay et à AgroParisTech.
Ce qui m'a fasciné surtout, c'est que je suis écologue, je travaille sur l'étude des systèmes écologiques, etc. Mais je suis aussi un passionné de sport. Et il y a ce paradoxe vraiment très intéressant de voir que quand on regarde des matchs de sport, fréquemment, on voit des lions sur les maillots, on voit des tigres sur les panneaux d'affichage, on voit toute cette imagerie animale dans les stades, aux alentours, tatoués sur les bras des supporters, etc. Et quand on s'intéresse un petit peu à ces animaux-là, on se rend compte qu'ils sont en fait en danger d'extinction dans la nature. Et donc, c'est ce contraste un peu saisissant de cette surabondance de représentation animale dans le sport, mais en même temps de leur déclin dans la nature, qui a fait que le pont s'est fait assez naturellement d'essayer de parler un peu plus de biodiversité dans le sport.
Jusqu'ici, l'usage des animaux avait été étudié dans d'autres domaines. Dans la monnaie, par exemple. La faune représente là une certaine fierté nationale, comme le lémurien sur les billets de Milariari à Madagascar. Autre exemple, cette fois, dans la mode et le luxe. Là, l'animal est utilisé comme matériau ou motif, mais on trouve aussi des représentations avec des espèces qui font figure d'emblème, le cheval chez Hermès ou Longchamp, ou l'abeille chez Guerlain, et on peut sortir du luxe avec des exemples comme Puma ou Lacoste, mais dans le sport, malgré son poids culturel énorme, aucune étude n'existait jusqu'alors. C'est ce vide que vient combler cette nouvelle publication parue dans la revue Bioscience. Ici, 10 sports collectifs ont été étudiés. Football classique, football américain, deux types de rugby, hockey sur glace, volleyball, basket, cricket, handball et baseball, tous dans les ligues les plus hautes, féminines comme masculines, et dans les 10 économies les plus riches des 5 continents. Donc 50 pays au total, dans lesquels il a fallu examiner les logos, mais aussi les noms des équipes et les surnoms des supporters. Et résultat de l'étude, les espèces menacées sont largement surreprésentées dans les emblèmes sportifs.
Sur l'ensemble de l'étude, on a pu relever qu'il y avait plus de 700 équipes professionnelles qui faisaient appel à l'imagerie animale, donc soit dans leur nom, soit dans leur logo, soit dans le surnom de leurs supporters. Ce qui représente en fait à peu près un quart des organisations sportives professionnelles qui font appel à cette imagerie animale. Et au sein de cette imagerie animale, effectivement, il y a un top 5 qui se dégage avec en premier lieu, bien évidemment, le lion, le tigre, le loup, le léopard et l'ours brun. Et en fait, quand on fait la liste comme ça de ces espèces, on se rend compte que 30% des espèces concernées sont en fait menacées d'extinction, selon la liste rouge de l'Union internationale de la conservation de la nature. Mais au-delà de ça, c'est que ça représente 60% des équipes qui ont pour emblème une espèce menacée d'extinction. Quand on dit menacée, on parle d'espèce qui est soit vulnérable, soit en danger d'extinction, soit en danger critique d'extinction. Il y a plusieurs degrés de menaces qui pèsent sur ces espèces. Mais effectivement, les espèces les plus représentées, au final, sont celles qui sont le plus en danger d'extinction, qui ont les populations qui décroissent, etc.
Ces données confirment l'intuition de départ du chercheur. Cette surabondance d'animaux dans les stades correspond bien à des espèces en fort déclin. L'étude révèle aussi une diversité bien plus large qu'attendue. Il y a des oiseaux, des insectes, des reptiles ou encore des araignées. Cette mosaïque va donc plus loin que les seuls grands mammifères prédateurs. Une carte interactive est d'ailleurs en ligne pour explorer tous ces emblèmes animaux et leur état de conservation. Le sport pourrait ainsi devenir un levier de conservation de la nature. Les 727 équipes étudiées cumulent près d'un milliard de followers sur les réseaux sociaux, une audience immense pour parler de biodiversité et communiquer autour de la protection de la nature. C'est l'objectif du projet The White League, porté par ce chercheur, rassembler des clubs volontaires pour sensibiliser à la protection des espèces, soutenir des actions de conservation ou financer des projets sur le terrain. La suite du côté de la recherche, c'est d'inclure davantage de sport à des échelons inférieurs et compléter ses études exploratoires avec des expérimentations plus sociales pour déterminer le réel potentiel et intérêt de cette initiative sur le long terme.
Merci Alexandra pour votre chronique. Erratum, le festival Ciné-Sciences se déroule jusqu'au 12 décembre. Merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Joseph Schlegel à la réalisation. C'était Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Noé Chaban, et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.